Nadwa.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.
Chers fidèles auditeurs, bienvenue sur Radio Manarat pour un nouvel épisode de notre émission Nadwa. Le sujet intrigant que va aborder aujourd'hui notre licencié en sociologie de l'Université de Liège et docteur en sciences politiques et sociales de l'Institut universitaire européen, Florence Martiniello Marco, le multiculturalisme à l'ère digitale qui est au-delà de toute frontière mais aussi le renforcement du mieux vivre ensemble. Inspirons-nous de sa vision à propos de ces diversités culturelles contemporaines.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bien, aujourd'hui, je vais vous raconter peut-être pas une histoire, mais en tout cas, je vais aussi contribuer à donner la parole à des personnes que trop souvent la société considère comme des personnes qui ne devraient pas avoir de parole et qui sont trop souvent rangées, cataloguées dans des catégories à risque de la population. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des nouvelles technologies et du digital. Et donc, si certaines et certains d'entre vous s'attendent à un discours déterministe qui montrerait que le passage à l'ère digitale va résoudre toutes les questions liées à la diversité culturelle, peut-être que vous serez un peu déçus. Donc moi, je m'éloigne de tout déterminisme technologique, et d'ailleurs de bien d'autres déterminismes aussi, mais il me semble qu'on ne peut pas aujourd'hui poser les questions de la diversité culturelle et de la manière dont elle est gérée sans tenir compte du fait que le passage à l'ère digitale a modifié profondément pas mal de choses, à la fois dans la manière dont les gens peuvent s'exprimer et diffuser leur production, leurs avis, leurs opinions, et aussi dans la manière dont les responsables politiques peuvent répondre aux enjeux qu'ils voient localement, mais qui ne sont peut-être pas des enjeux exclusivement locaux. Lorsqu'on parle, par exemple, de la problématique du terrorisme à Bruxelles, puisque c'est là que j'habite, même si je n'y travaille pas, certains pensent que le départ de jeunes d'origine immigrée en Syrie pour aller se battre est le signe de l'échec des politiques d'intégration. C'est une optique qui me paraît être très, très, très réductrice. Certes, les politiques d'intégration n'ont pas tout réussi, mais même si elles avaient réussi, ces jeunes ne seraient-ils réellement pas partis? Nous sommes dans une situation où ce qui se produit à 10 000 km de chez nous peut avoir un impact dans nos quartiers pratiquement au même moment. Et donc, il faut tenir compte de cela. Et cette circulation d'idées, d'opinions est rendue aussi possible par les nouvelles technologies. Alors peut-être, ça c'est un petit plan de l'exposé, et le gardien du temps ne doit pas hésiter à me faire taire lorsque le temps sera venu. Je vais quand même commencer par répondre à cette question très très simple, mais de quoi parle-t-on? C'est quoi le multiculturalisme? Puisque c'est devenu, dans certains pays, un trêlé mot. On ne peut pas parler de multiculturalisme. Et donc, je reviendrai quelques instants là-dessus. Je critiquerai un peu la pensée normative qui a tendu à dominer ce débat sur le multiculturalisme, ou ce que j'appelle aussi la pensée qui est peut-être dirigée par des préoccupations de politique publique. Alors moi, je défends une position qui est la suivante: les sciences sociales doivent être impliquées dans les débats publics, doivent être impliquées dans un travail avec les décideurs, mais il y a un problème lorsque les décideurs imposent l'agenda de recherche. C'est un problème qui me semble assez important. Je suis pour un dialogue d'ouverture dès le début même de la constitution des programmes de recherche, mais il ne peut pas y avoir de recherche sans une certaine autonomie des chercheurs. Et donc, après cela, je viendrai tout doucement dans le cœur du débat. On parle beaucoup de polarisation sociale, de polarisation ethnique, de polarisation culturelle dans nos villes qui sont de fait des villes multiculturelles. C'est une réalité qui, bien que globalement je partage le constat de Sandro, les migrations sont porteuses d'enrichissement des sociétés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y en a, et des problèmes extrêmement importants. Mais d'un autre côté, on ne peut pas réduire notre analyse au constat de ces problèmes. Et je crois qu'il y a aussi en germe dans nos sociétés et dans nos villes, probablement de manière différente d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, il y a des nouvelles formes de vie ensemble, je préfère l'expression de faire ensemble, qui se développent, parfois dans des quartiers qui n'ont pas nécessairement une bonne réputation. Il y a une nouvelle manière de vivre dans des espaces multiculturels. Et la question générationnelle ici est importante. Nous sommes maintenant face à une génération qui est née dans une société multiculturelle et qui se reconnaît comme telle. Donc ce n'est pas le cas de ma génération ou de la génération qui m'a précédé. Nous avons dû apprendre, en fait, la multiculturalité. Et donc ça change. Et donc la question se pose, et la politique et les politiques, que peuvent-elles faire? Que font-elles? Que devraient-elles faire? Alors lorsqu'on parle de multiculturalisme, il y a plein de confusions dues à la polysémie du terme. Souvenez-vous de cet entretien de M. Sarkozy lorsqu'il était président et qu'on lui demandait s'il était pour ou contre le multiculturalisme. Il ne savait même pas prononcer le terme multiculturalisme. Il disait, moi je suis contre. Madame Merkel, on en avait parlé, qui disait, le multiculturalisme est un échec. Comment est-ce qu'une réalité peut être un échec, hein? Et donc, je crois que la première dimension, c'est de dire, le multiculturalisme, ou peut-être faudrait-il plutôt parler de multiculturalité, c'est simplement le constat que nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans des sociétés qui sont diversifiées, dans des sociétés dans lesquelles cohabitent, coexistent plusieurs cultures, plusieurs individus, plusieurs groupes porteurs d'héritages culturels très très différents. C'est un constat, et un constat ne se trompe pas, c'est une réalité. Quand je marche dans les rues de Genève, j'entends parler des langues très différentes, je vois des gens très différents. Même chose quand je suis à Bruxelles ou à Liège, ou quand je suis à Cologne, ou... il y a de plus en plus de villes qui sont marquées comme ça, fondamentalement par cette diversité culturelle. Donc ça, c'est une première dimension qui est descriptive et qui en soi ne devrait pas faire problème. Et pourtant, elle fait déjà problème. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle moi le multiculturalisme soft ou light, un peu comme le Coca-Cola, qui renvoie plutôt à des pratiques sociales et à des modes de consommation urbaine. Et il s'agit de cette jeunesse qui, parfois, a du mal un peu à attendre les vacances pour voyager, et donc on célèbre les cuisines du monde, on célèbre les musiques du monde, même si maintenant on ne peut plus parler de world music, c'est dépassé. Et donc il y a cette marque, cette célébration de la diversité dans les modes de vie, dans les modes d'habillement, dans la gastronomie, dans les goûts musicaux, dans les goûts philosophiques, etc. Et donc, c'est quelque chose qui marque aussi toutes nos sociétés. Et certaines villes, certains pays en font vraiment une marque. Si vous allez à Amsterdam, jamais à Amsterdam, on ne vous parlera de la cuisine néerlandaise, mais on vous dira... La cuisine Amsterdam, c'est que nous avons toutes les cuisines du monde, c'est ça notre richesse. Nous avons le monde entier chez nous. C'est devenu quelque chose, je dirais, de relativement bien accepté par tout le monde, mais en fait, ça ne porte pas à conséquence. Vous pouvez très bien voter Front National et aller manger un couscous. Vous pouvez très bien adorer la cuisine vietnamienne et avoir des positions ultra-colonialistes. Je veux dire, là, vous êtes dans des pratiques qui ne sont pas nécessairement connectées à, notamment, des questions qui renvoient, par exemple, et c'est la troisième dimension, aux politiques publiques et aux droits garantis aux minorités. C'est la troisième dimension du multiculturalisme. On parle parfois de politique du multiculturalisme. Quels sont les outils que les autorités vont mettre en place pour gérer
la diversité culturelle, que ce soit dans le logement, dans l'enseignement, dans la santé, dans la culture, dans la politique. Ce sont des questions que les pays européens n'ont pas posées de la même manière et au même moment. Je crois que les premiers à se poser ces questions, en tout cas dans cette partie de l'Europe, si on s'en tient aux migrations, à la situation migratoire d'après-guerre, c'est le Royaume-Uni, qui dès les années 60 mettait en place les Race Relations Act, qui visait à assurer l'égalité raciale, disait-on à l'époque, aux États-Unis. En Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne n'avait pas du tout une politique qui se définissait comme une politique multiculturelle à l'époque. Donc il y a ces politiques publiques. La Suède a été un des premiers pays européens à mettre en place un modèle basé sur l'encouragement de la diversité culturelle. Et en fait, c'est assez intéressant de remarquer que les personnes qui ont formulé cette politique suédoise du multiculturalisme, en fait, c'était des professeurs d'université qui se sont réunis, un groupe d'experts qui se sont réunis et on m'avait expliqué toute cette histoire. En fait, tout s'est pratiquement passé en deux nuits où ces professeurs, en petits groupes, ont, sur la base de leurs travaux, pondu le plan que le gouvernement a alors mis en place, et c'était le multiculturalisme suédois. Deuxième pays, c'est les Pays-Bas, qui eux aussi ont travaillé avec un groupe d'experts académiques, dont nous en connaissons un, Rinus Pennings, retraité maintenant de l'Université d'Amsterdam. C'était sur la base de rapports de sociologues et d'anthropologues que la politique néerlandaise des minorités ethniques, disait-il à l'époque, a été formulée et était basée sur la reconnaissance de l'importance de la culture, même dans l'intégration socio-économique des migrants. Associé à cela, mais qu'il faut distinguer, la quatrième dimension du multiculturalisme renvoie plutôt à la mobilisation politique des populations minoritaires et à ce qu'on a appelé la politique des identités. Comment les groupes se mobilisent-ils pour revendiquer quoi dans ces sociétés multiculturelles ? Et donc, il y a une grande littérature maintenant sur ces questions-là, où on regarde plutôt ce qui se passe d'en bas et comment on essaye d'influencer ce qui se passe en haut. Et enfin, la cinquième dimension, c'est la plus compliquée, la plus solide dans les analyses théoriques qui ont été produites. C'est ce que j'appelle le multiculturalisme hard. C'est en fait une remise vraiment en cause des fondements de nos sociétés qui sont des sociétés. Et je sais que je vais dire ça en Suisse et que quand je le dis en Belgique, ça fait rire pas mal de gens. Mais notre modèle, malgré tout, c'est le modèle de l'État-nation. Même si nous sommes des pays un peu particuliers, l'idée quand même, c'est qu'il devait y avoir une congruence entre la culture et le politique. Et donc, on présupposait qu'il y avait une relative homogénéité culturelle. Maintenant, nous sommes dans des sociétés qui se sont diversifiées et qui se diversifieront encore. Ne doit-on pas repenser les fondements même de notre société ? Et là, il ne s'agit plus d'aller manger une pizza ou du couscous. Il s'agit de se poser la question, par exemple, doit-on introduire des éléments du droit islamique dans nos droits européens ? Ça, ce sont des questions qui mériteraient à elles seules un cycle de conférences de 100, 120, 150 heures. Parce que là, on touche vraiment aux fondements, aux arrangements de base de nos sociétés. Et donc, suivant qu'on se situe à un ou l'autre, à l'une ou l'autre de ces dimensions, on va avoir évidemment des approches et des avis, des opinions, des analyses extrêmement différentes. Quoi qu'il en soit, il semble incontestable que un grand changement s'est opéré, disons, entre 1985, le début des années 80, et aujourd'hui. On est passé d'une situation où le célèbre sociologue américain Nathan Glaser intitulait son ouvrage « Nous sommes tous multiculturalistes maintenant, aujourd'hui », et il le regrettait. Pour lui, le multiculturalisme comme politique, comme modèle de société, c'était une régression dans l'histoire américaine. Il le regrettait, mais il constatait que c'était l'approche qui avait le vent en poupe. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Nous sommes tous devenus anti-multiculturalistes. Je me réfère aux travaux de Christian Jobke, qui travaille, je crois, à Berne, à l'université de Berne. On est là dans des joutes entre des penseurs qui sont je dirais, souvent orientée politique publique contre ou de plein gré. Je prends comme quelqu'un au Canada comme Will Kimlicka, qui a influencé beaucoup les politiques publiques au Canada. Un philosophe, au départ, était-ce son objectif ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. Des visions très sophistiquées du monde de demain ont été développées. Les travaux de Charles Taylor, les travaux de Kimlicka, les travaux de Bhikkhu Parekh. Et parmi les travaux importants ici, il y a les travaux de Matteo Gianni, il y a bien longtemps, que j'ai utilisé avec mes étudiants pendant de très nombreuses années. Maintenant, on ne peut plus faire des cours sur le multiculturalisme chez nous, c'est trop dangereux. Alors, un problème majeur de certaines de ces approches philosophico-normatives, c'est que souvent, elles sont complètement déconnectées de la réalité sociale, qui soit est négligée, soit est convoquée pour illustrer des arguments normatifs. Donc c'est comme si on voulait faire entrer la réalité dans les cadres philosophiques et normatifs, sans voir ce qui se passe réellement sur le terrain, dans nos villes et dans nos quartiers. Et donc, moi, je fais toujours des plaidoyers en faveur d'une recherche empirique qui peut être, je parle de socio-anthropologique, mais je ne suis pas très à cheval sur les frontières entre les disciplines, vraiment aller voir ce qui se passe sur le terrain en termes de dynamique sociale, culturelle et politique. Alors, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on examine la réalité? C'est clair qu'il y a des tendances à la polarisation socio-ethnique dans les villes multiculturelles. Je prendrai l'exemple de Bruxelles, que probablement beaucoup de gens connaissent, et j'essaierai d'être très rapide. Donc, c'est une petite ville-région globale, 1 200 000 habitants, c'est un village à l'échelle planétaire, c'est une petite ville provinciale en Chine. La moitié des résidents ne sont pas nés à Bruxelles, 33% sont des résidents étrangers, 40-50% d'origine immigrée. Toutes les nationalités ou presque reconnues par l'ONU sont représentées, mais il y a une spécificité, 13% de la population est d'origine marocaine et d'une partie du Maroc, du nord du Maroc, du Rif, qui est une région particulière dans ce pays. Des nouveaux migrants arrivent, les flux migratoires se renouvellent constamment. Et nous avons aussi, il faut le dire, cette particularité d'avoir une ville qui est à 95% bilingue, qui se situe en territoire flamand et qui officiellement a un statut de bilinguisme. Mais finalement, ce n'est qu'une petite partie de la population en Bruxelles qui est bilingue néerlandais-français. C'est une ville qui est très riche, mais c'est une ville qui est très pauvre. Donc, plus de 20% de chômage à Bruxelles. Dans la catégorie des 18-25 ans, on arrive parfois, dans certains quartiers, à 40-50%. Dans cette ville, on voit la fragmentation, on peut lire dans le paysage la fragmentation, mais aussi les replis, la séparation sur une base ethnique, religieuse, mais aussi socio-économique. Pour autant, il n'y a pas de ghetto à Bruxelles. Je défends l'idée qu'il n'y a pas de ghetto dans cette ville. Il y a certains quartiers qui sont très homogènes au niveau socio-économique, au niveau ethnique, au niveau religieux, au niveau culturel. Il y a cette fracture entre la Bruxelles belge et la Bruxelles internationale. Il me semble que vous avez jusqu'à un certain point peut-être une fracture similaire à Genève entre la Genève suisse et la Genève internationale. D'ailleurs, je vois qu'aussi c'est un peu en dehors de la ville. À Bruxelles, c'était dans le centre de la ville, mais bon, la construction maintenant de nouveaux bâtiments de la Commission du Parlement fait que les fonctionnaires européens sont vraiment un peu partout dans la ville pendant la journée. Le soir, ils sont surtout dans certains quartiers, sur certaines places. Il y a un fort sentiment d'appartenance locale dans cette ville qui est un peu une ville à l'américaine où la pauvreté, finalement, se retrouve dans les quartiers très proches du centre, de la Grand Place, quartier historique de Bruxelles. Vous marchez 7 minutes, vous êtes dans le cœur de Molenbeek, d'où sont partis les terroristes qui ont commis tous ces dégâts humains à Paris et ailleurs. Donc nous sommes dans une configuration où, en fait, les gens sont obligés de se croiser, d'avoir des frictions. Et donc ils vont mettre en place parfois des stratégies d'évitement. Ils vont parfois essayer de créer des ponts entre eux. On voit cette séparation aussi dans l'espace. Plus vous vous éloignez du centre de la ville, plus le taux de chômage va baisser, plus la prospérité va augmenter, plus le pourcentage d'immigrés pauvres va diminuer, plus le pourcentage de jeunes va diminuer, et plus le nombre d'expatriés va augmenter. Alors, ces stratégies, ces tensions expliquent-elles certains comportements de certains jeunes? C'est probablement une dimension à prendre en compte, mais elle est loin d'être suffisante. C'est la grande place, tout ce qu'il y a autour, ce sont les quartiers qui étaient anciennement des quartiers ouvriers. Mais la classe ouvrière belge, soit a disparu, soit elle a bougé vers la périphérie, et elle a été remplacée par les populations issues de l'immigration. Des quartiers qui étaient belgo-belges, et parmi les belgo-belges, il y avait des immigrés flamands, qui étaient perçus comme des immigrés, dans leur propre pays, voire même dans leur propre ville, ou à quelques kilomètres de leur propre ville. Ils ont été remplacés par les Italiens, puis les Italiens ont été remplacés par les Marocains ou les Turcs dans certains quartiers, et aujourd'hui les Marocains et les Turcs sont remplacés par des Indo-Pakistanais, par des Africains subsahariens, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement congolais, puisque la Belgique n'a jamais eu une politique de recrutement de la main-d'œuvre coloniale. La Belgique a préféré recruter des Méditerranéens que des Congolais, pour des raisons qu'il serait peut-être trop long d'expliquer. Alors il y a cette tendance, il y a cette polarisation, il y a cette fragmentation, cette division. On peut parler de repli, mais le plus grand repli en Belgique aujourd'hui, le plus grand repli communautariste, c'est celui du nationalisme flamand, représenté par deux partis, la NVA, la Nouvelle Alliance Flamande, et le Vlaams Belang, intérêts flamands, qui sont des partis, en tout cas pour le Vlaams Belang, il n'y a aucun doute, je dirais, de la famille du Front National tendance Jean-Marie Le Pen. La NVA, c'est un peu plus compliqué, mais eux mettent en avant un repli très fort sur une communauté flamande imaginée, et imaginée comme pure d'un point de vue culturel, et pour certains même d'un point de vue biologique. C'est une partie de Bruxelles, mais d'un autre côté, il y a la Bruxelles qui bouge. Et je me réfère ici aux travaux qui sont menés par différentes chercheuses, Karin Peters aux Pays-Bas, Anita Harris, Amanda Wise et d'autres en Australie, qui mettent en avant le développement ou le redéveloppement peut-être d'un multiculturalisme au quotidien. Certains parlent de néo-cosmopolitisme ancré, puisque ça se développe dans les quartiers, dans les rues, dans les maisons. Ça se voit aussi à Bruxelles. Des personnes franchissent les frontières entre les groupes, ne veulent pas être catégorisées ethniquement, racialement, religieusement, socialement. Elles veulent l'échange, ou elles le pratiquent. Elles veulent le métissage, elles veulent développer des nouvelles pratiques de solidarité, qui parfois sont ancrées dans leur voisinage, qui parfois sont ancrées dans des espaces qui sont en quelque sorte gagnés, des espaces neutres qui sont gagnés. Et tout cela se développe sur le terrain sans lien aucun avec la pensée normative sur le multiculturalisme et sans théorisation aucune. Les recherches que je mène auprès de jeunes urbains à Bruxelles et ailleurs, si vous voulez que l'entretien prenne fin tout de suite, vous parlez de multiculturalisme ou d'interculturalisme. Ils vont s'échapper en courant. Ou bien vous parlez de politique aussi. Et surtout de partis politiques. En revanche, ce que eux vivent, c'est bien cela. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans une société qui veut les catégoriser. Ils sont dans des expériences de vie où la diversité sociale, ethnique, culturelle, religieuse, raciale entre guillemets, nous savons tous que la race est une construction sociale et pas un concept biologique, où toutes ces barrières n'ont pas de sens pour eux. Ils sont au-delà de ces catégories qui, pour eux, sont des catégories du passé. Cela se développe dans les quartiers, des quartiers mixtes, où ils sont encore mixtes. On voit ces nouvelles modalités de vivre ensemble, les lieux de rencontre neutres dont je parlais tout à l'heure. Il y a vraiment une espèce d'intelligence de la multiculturalité qui s'est créée avec le temps. Et ces groupes, ces jeunes sont particulièrement bien représentés dans les pratiques artistiques. Je parle pour ma part de communautés locales de pratiques artistiques, que l'on voit dans la danse, dans la musique, dans le théâtre. Ces jeunes sont proches les uns des autres, mais sont connectés avec le monde, surtout grâce aux nouvelles technologies. Alors je prends un exemple qui est réel, qui est lié à mes travaux, à nouveau. Lorsque j'annonçais un rappeur bruxellois d'origine marocaine que j'allais aller à Brooklyn et dans le Bronx pour faire des recherches, il me dit « il faut absolument que tu vois un tel, un tel, un tel et un tel ». Il n'était jamais allé dans le Bronx. Mais ces personnes se connaissent, font partie d'une même communauté virtuelle, mais qui est une communauté très réelle. Et donc je me suis présenté avec le support de quelqu'un qui m'a ouvert toute une série de portes. Ça n'aurait pas été possible, évidemment, sans les nouvelles technologies. Et cette mixité, qui n'est pas nécessairement conceptualisée, mais qui est expérimentée, fait vraiment bouger les lignes dans les villes, et pas simplement dans les quartiers où ça se passe. Parfois, c'est extrêmement... c'est remarquable de voir, quelques semaines après les attentats à Bruxelles, ces groupes de danse à Molenbeek, vraiment là où a été arrêté Salah Abdeslam, ces groupes de danse où vous pouviez voir des jeunes du quartier, d'origine marocaine, des jeunes d'origine congolaise d'autres quartiers, des jeunes filles bien flamandes de la banlieue riche de Bruxelles, toutes ces personnes unies par un même projet, qui est un projet artistique, qui est un projet culturel, et qui n'est pas perçu comme un projet politique, et qui n'est pas conceptualisé comme une nouvelle philosophie de vie ou comme un nouveau projet de société. Alors, où voit-on cela ? Il y a évidemment des tas de projets que je pourrais présenter. Cette expérience de la Zineke Parade est absolument extraordinaire. La Zineke Parade, c'est une parade urbaine qui a lieu toutes les années au mois de mai à Bruxelles, qui au départ a été conceptualisée par des sociologues urbains de la VUB, l'Université libre flamande de Bruxelles. Il faut faire attention à tous les termes. Et en fait, l'idée, ce n'est pas tellement de faire une parade urbaine, c'est de mettre en place un processus qui va rassembler toutes les populations de la ville autour d'un projet. Donc, un thème est choisi, et les thèmes sont choisis de manière démocratique. Le thème, disons, ça peut être le corps, ou ça peut être la fragilité, des thèmes comme ça. Et autour de ces thèmes, dans chaque quartier, des groupes vont préparer leur contribution pendant pratiquement toute l'année. Et dans ces groupes, il y a des artistes professionnels, mais il y a des citoyens. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des personnes de différentes orientations sexuelles, de différentes religions, et toutes ces personnes vont mettre en place, construire leur projet qui sera présenté. Le point culminant, ce sera cette parade qui maintenant est suivie par pratiquement 100 000 personnes. Au départ, personne ne croyait à cela. Donc ces pratiques, et Zineke, que veut dire le terme Zineke ? En dialecte, en vieux dialecte bruxellois flamand, le Zineke, c'est le chien bâtard, le chien dru, hein, qui courait partout, mais qui était aussi, qui avait peut-être un peu un caractère bourru, mais qui allait vers tout le monde, qui allait à la rencontre. Un peu c'est ça, c'est ce projet-là. Dans une recherche qu'on a menée avec des collègues suédois de Malmö, l'université de Malmö, ils montraient bien, ils comparaient deux institutions culturelles dans la ville de Malmö. La première avait dans sa raison d'être et son objectif explicitement annoncé de favoriser l'interculturalisme. Qui était présent là-bas? Des jeunes suédois blancs de la classe moyenne. D'un autre côté, un autre centre culturel n'avait absolument aucun discours sur la diversité culturelle, et c'est là que se retrouvait tout ce public varié. Donc, je crois qu'il faut parfois repenser non seulement nos catégories d'analyse, mais aussi nos catégories lorsque nous voulons développer des politiques publiques. Alors, vous allez peut-être penser, ce monsieur Martignello, c'est un doux rêveur, il est naïf, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas du tout. Je suis à court terme assez pessimiste, puisque nous sommes quand même dans une période où les tensions sont très très fortes entre différents groupes, où la violence parfois est très très forte et quotidienne. Mais je pense qu'à long terme, on peut avoir des raisons d'espérer. Je ne suis pas sûr que notre société va réussir à ramener ces gens dans des catégories ethniques, raciales ou sociales prédéterminées. Je pense qu'ils sont en train de construire une espèce de citoyenneté multi ou interculturelle par le bas, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Et maintenant, la question est de savoir, va-t-on, nous, la société, par nos politiques publiques, par notre traitement médiatique, va-t-on encourager ces mouvements ou au contraire, va-t-on les casser? La chose est très fragile, mais elle est vraiment existante et elle se remarque, elle se constate dans de nombreuses villes et pas nécessairement dans les grandes villes et surtout au départ des arts, de la culture, mais aussi, et je n'en ai pas parlé aujourd'hui, j'aurais pu dans certaines activités sportives. Et donc, je crois qu'il est important de souligner ces développements. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a ces tendances contradictoires qui sont à l'œuvre dans nos sociétés multiculturelles. Mais en tant que chercheur engagé, j'ai fait le choix de favoriser ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et ça se fait dans un débat avec les personnes, notamment, qui repensent, qui retravaillent les politiques culturelles en vue d'éviter toute forme de ghettoisation, notamment artistique, mais aussi sociale, qui nous conduisent finalement à surmonter les distinctions d'antan entre haute culture et culture populaire. Je crois qu'il faut voir ces mouvements comme peut-être une illustration que potentiellement ce sont bien des sociétés diversifiées que vont émerger des nouvelles formes de vivre ensemble, des nouvelles modes de création de richesses, puisque la plupart de ces personnes sont aussi des espèces d'entrepreneurs et s'inscrivent sur le marché du travail de cette manière-là. Et donc, voilà, je suis très heureux de vous avoir présenté ces réflexions en cours et j'espère que je pourrai revenir dans le long terme, je ne sais pas combien c'est le long terme, en vous disant que j'avais raison, mais on verra. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup. Aussi à vous tous que vous avez écouté avec beaucoup d'attention ce qui se passait. Et je ne t'ai pas interrompu, mais tu as parlé trop longtemps, voilà, ça va. Parce qu'évidemment, on était très curieux à savoir qu'est-ce que tu vas nous proposer comme politique et comme orientation. On a seulement 8 minutes, malheureusement, pour encore rester ensemble et discuter. Je propose la chose suivante. On récolte des brefs commentaires, 5, 6, et puis vous avez 2 minutes chacun pour y répondre. Qui aimerait commenter ou faire une question? Oui. Tu te présentes, je sais qui tu sais, évidemment, si tu dis ça à tout le public.
Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Emmanuel Déonal, je suis conseiller municipal en ville de Genève. Moi, j'aurais 2 questions pour Monsieur Martignello. La première, par rapport à la réussite et aux échecs, parce que vous dites que les théories du multiculturalisme ne sont pas aptes à décrire la complexité de la réalité sociale et que vous nous présentez des exemples de cosmopolitisme. Politanisme ancré très successful et en même temps vous nous montrez aussi des échecs avec ces classes sociales concentrées au bord du canal de l'ancien quartier ouvrier, et puis plus on s'éloigne du canal, plus on se retrouve dans des ghettos pour riches. Donc quels sont les échecs pour vous les plus battants? Est-ce qu'ils concernent plutôt les sans-papiers ou les réfugiés? Je sais que la ville de Bruxelles a une politique assez admirable de conscientisation par rapport aux réfugiés. Et puis ma deuxième question, c'est par rapport aux modèles conceptuels qui peuvent quand même aider à élaborer des politiques. Vous avez critiqué le multiculturalisme. Je me demandais s'il y avait des facteurs historiques aussi, puisque la Belgique se trouve coincée entre la France et l'Allemagne, qui explique qu'on s'est intéressé plus au multiculturalisme et pas au modèle républicain centralisateur français ou au modèle allemand homogénéisant qui a généré beaucoup de souffrances en territoire belge lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale.
Merci. On fait encore une ou deux remarques, s'il y en a. Il y en a, évidemment. Voilà, c'est super. Toutes les questions étaient répondues. Donc, vous avez 2 minutes et demie, du coup.
2 minutes et demie.
Je commence avec toi, Marco. Et peut-être tu peux faire aussi encore un commentaire final, ensuite.
Alors, je crois que les échecs les plus importants, ce n'est pas dans la politique d'intégration, c'est dans l'éducation. Donc en Belgique francophone, nous avons un des systèmes éducatifs les plus inégalitaires au monde. Donc nous avons créé des personnes, des générations, maintenant la deuxième génération, qui vit dans un monde scolaire qui est ségrégué. Et donc, il y a des écoles. En Belgique, on parle parfois, pour certaines écoles, d'écoles poubelles. Vous vous rendez compte de la violence? Et qui retrouve-t-on dans les écoles dites poubelles? Beaucoup de gamins de quartiers populaires qui ont des origines immigrées. Et on a laissé s'instituer cet apartheid scolaire qui, alors, évidemment, a des impacts sur la formation, sur la possibilité de trouver un emploi, sur l'estime de soi, sur le sentiment d'être exclu, etc. etc. Ça, pour moi, c'est peut-être la clé. Tu parlais de clé, Sandro, l'éducation, l'école, ça me paraît fondamental. Maintenant, moi, j'ai la réputation d'être un multiculturaliste. Donc, ce qu'il me semble important, c'est de sortir de l'opposition stérile entre des modèles. Le modèle républicain, le modèle multiculturel, le modèle... il y a plein de typologies qui sont faites. Je crois que peut-être il est temps d'essayer de construire quelque chose en mettant ensemble autour de la table, ou de table au pluriel, les jeunes, les décideurs, les académiques, essayer de construire quelque chose d'autre plutôt que, par exemple, il y a des modes comme ça. Hein. À un moment, tout le monde voulait apporter le modèle canadien. Le modèle canadien, il est né au Canada pour des raisons particulières. Il ne peut pas être exporté comme tel ailleurs. Donc je crois que on ne peut pas, et parfois c'est difficile à entendre par certaines personnes, malheureusement c'est vrai, les choses ne sont pas aussi simples que ça. S'il y avait une clé, un modèle, une recette qu'il suffirait d'appliquer, on l'aurait déjà fait. Moi, je crois qu'il faut sortir, il faut essayer de créer autre chose à partir aussi de ce qui existe, qui est peut-être minoritaire, mais qui est déjà là. Maintenant, bon, si je peux dire un mot sur ces personnes qui se sentent abandonnées, oui, oui, et qui ont été abandonnées dans bien des cas. Je crois que le plus mauvais réflexe à avoir, c'est de les traiter de racistes. Je crois qu'il faut aller parler avec les gens. Et c'est peut-être ce que les partis, en tout cas dans le nord de la France et dans certaines régions d'Allemagne et de Belgique et de Grande-Bretagne, les partis progressistes, les partis de gauche ont déserté le terrain. Mmh. Et ça, je crois qu'il faut, retourner sur le terrain. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils sont confrontés, je suis allé depuis la soi-disant crise des réfugiés, parler dans des assemblées, mais dans des endroits qui étaient parfois des bastions d'extrême droite. Lorsque les gens sont là et
parle de l'électeur de base. Je ne parle pas de Madame Le Pen ou des politiciens. Avec eux, le débat est impossible, on l'a vu, pas capable de débattre. Mais avec les gens, je crois qu'il y a moyen de faire changer des attitudes en les confrontant à la réalité. Et on le voit d'ailleurs, on a des exemples concrets, empiriques, où des villages et des petites villes où le soutien à l'extrême droite électorale est très fort, mais où, c'est là aussi où il y a eu les mobilisations les plus fortes contre l'expulsion de réfugiés, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en vivant ensemble, ils avaient vu en fait que tout ce qu'on racontait sur les réfugiés, ce n'était pas nécessairement vrai, et que, grosso modo, tous les gens cherchaient en gros la même chose, quoi. Un endroit où vivre en paix, où avoir des bonnes écoles, des bons hôpitaux, etc. etc. Donc je crois qu'il faut renouer ce dialogue, et ce n'est pas facile, ni pour les hommes politiques, ni pour les académiques qui, de plus en plus, sont associés à cette élite rejetée. Quoi.
Et ajouterais le terrain de l'Internet. Tu as parlé du digital.
Bien sûr, aussi. Mais ça, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Internet street workers et politiciens qui ne parlent pas seulement aux gens qu'ils aiment bien. C'est là aussi qu'il faut faire des pas dans une autre direction. C'est des scènes closes, ces scènes qui se parlent. Merci beaucoup et merci surtout au public d'avoir été avec nous et d'avoir écouté toutes ces discussions. Merci et à une prochaine.
Nadoua.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.